Remue-ménage, c'est Ondes Femmes sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8.
John, but he
Bonjour, aujourd'hui sur Radio Zone 93.8, c'est Onde Femme qui commence et c'est Remue Ménage. Remue Ménage cet après-midi en compagnie de Solidarité Femmes. Vous avez sûrement entendu parler de l'action de ce groupe qui travaille à Genève en solidarité avec les femmes victimes de violences conjugales principalement. Et nous discuterons un long moment avec elle, histoire de mieux comprendre ce phénomène qui, hélas, touche beaucoup, beaucoup trop de femmes. Et nous, Remue Ménage, avons envie de nous sentir aussi solidaires et de participer à briser le silence autour de ce problème. Alors dans quelques instants, après quelques petits morceaux de musique, en compagnie de Solidarité Femmes.
Da velha rua da Palma mondo è un dia, deixei preda minha alma, por ter passado mesmo ao meu lado, ter fadista. Consigo, mas ainda agora e a toda hora trago comigo. Ai, moraria dos roxinóis nos beirais, dos vestidos cor de rosa, dos perfumes tradicionais. Das procissões a passar, da severa em voz saudosa, na guitarra a soluçar. Da severa em voz saudosa, na guitarra do sol.
C'était Amalia Rodriguez et tout à l'heure, en tout premier, c'était les Bananarama, Strike It Rich. Alors, nous voilà maintenant en compagnie des femmes de Solidarité Femmes. Je vous les présente. Elles ont eu la gentillesse de se déplacer en direct dans notre studio. Nous sommes en compagnie de Daniela Cavadini et de Guylaine Tessier. Bonjour.
Bonjour.
Et de Michel, qui nous a rejoint aussi au studio. Je les remercie infiniment de venir en direct. Je crois que c'est toujours beaucoup plus vivant quand on peut parler ensemble en direct dans notre studio. Je pense que beaucoup de gens, heureusement, et beaucoup de femmes connaissent aujourd'hui l'action de Solidarité Femmes à Genève. Ça fait quand même 12 ans que vous existez, que vous agissez, que vous réfléchissez sur le problème des femmes battues et de la violence conjugale en général. Et qui peut aujourd'hui prétendre qu'il ne connaît pas l'importance, la gravité de ce problème ? C'est qu'il faudrait être quand même assez malhonnête pour fermer totalement les yeux sur cette question-là. Mais effectivement, il faut encore et encore briser le silence qui règne autour de ce problème. Et c'est bien sûr en partie pour cette raison, bien sûr, que votre groupe s'est créé. Alors peut-être juste pour rappeler quand même à ceux et à celles qui ne connaîtraient pas bien l'action de Solidarité Femmes, comment s'est créé ce groupe ? À l'origine, il y avait des femmes militantes, féministes.
Daniela. Exactement, oui. Donc Solidarité Femmes est une association qui a but non lucratif, qui vient en aide aux femmes victimes essentiellement de violences conjugales. Et ça a été créé justement en 77, en sortant des groupes de militantes féministes, conscience de manque de ressources à Genève. On a réfléchi sur l'insuffisance de réflexion par rapport à ces problèmes, ainsi qu'aux moyens d'intervention adéquats à ce genre de problèmes. On s'est inspiré d'expériences développées en Suisse et d'ailleurs en France aussi. Et notre association a acquis des caractéristiques professionnelles à longueur d'années. Elle compte aujourd'hui une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire que maintenant on est plus des bénévoles, on est des professionnels. Et on peut répondre à 500, jusqu'à 500 appels d'aide et offrir jusqu'à 1 500-1 300 nuitées par année. En plus, il faut dire aussi qu'on travaille dans un collectif autogéré et on a fait le choix délibéré de travailler en collectif non mixte.
Qu'est-ce que ça veut dire un collectif autogéré? Ça veut dire que vous n'avez pas de directrice, pas de structure hiérarchique dans, au sein de votre groupe?
Justement, pas. On se partage les tâches. Et entre nous, on n'a pas de directeur, de directrice, surtout pas. Et on a tour de rôle, on exécute toutes les tâches qui correspondent à ce genre de travail. En plus à ça, on a une équipe non mixte. Ça, c'est clair, c'est un choix délibéré aussi. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que notre politique consiste à offrir un lieu protégé. Donc, ça, c'est la première chose qu'on offre, c'était l'adresse secrète.
Oui, parce que peut-être avant de parler de quels sont les moyens que vous avez à disposition pour essayer d'assister les femmes qui sont victimes de violences, d'abord, quels étaient vos objectifs par rapport à cette violence dont sont victimes les femmes? Vous aviez l'intention de leur apporter quoi? Une aide verbale, une assistance financière, économique, une présence? Quelles étaient votre idée au point de départ?
Donc, d'offrir d'abord un lieu. Donc, pour sortir de cette violence, il faut leur offrir un lieu d'abord, parce qu'elles partent en urgence de chez elles, et puis leur offrir une écoute qu'elles ne peuvent pas avoir pour différentes raisons, donc pour honte, pour peur, des répressions comme ça, une écoute complète de notre
voilà. part. Est-ce que, alors les moyens que vous avez à disposition pour faire tout cela, c'est d'abord principalement, comme tu le disais, le foyer dont vous tenez l'adresse secrète. Je crois qu'on peut comprendre aisément la raison de cette nécessité, parce que vous voulez que les femmes se sentent absolument en sécurité, au moins pour essayer d'aborder ce qui leur arrive. Et puis, est-ce que vous avez d'autres moyens que vous pouvez proposer aux femmes pour les aider dans leur situation?
Donc, c'est-à-dire que les femmes, souvent, malheureusement, elles ne connaissent pas leurs droits. Donc, c'est la première chose, c'est leur offrir cette possibilité de connaître tous les droits qu'elles ont. Par exemple, ce qu'elle est encore malheureusement pas connu, c'est-à-dire qu'elles peuvent quitter le domicile conjugal sans recourir à la police, sans avoir besoin de dénoncer ce départ à une institution quelconque. Donc, elles ont le droit de quitter en emmenant leurs enfants avec elles.
Et je crois que vous avez une permanence téléphonique, donc le premier geste que peut faire une femme qui est victime de violence, c'est d'abord de vous téléphoner. D'ailleurs, c'est ce numéro-là que les gens connaissent quand on parle de solidarité femme.
Oui, tout à fait. Oui.
Donc le fameux 797-10-10, qu'il faut que tout le monde aille quelque part inscrit si une fois il en a besoin. Oui. Et vous recevez beaucoup d'appels téléphoniques, c'est un moyen que les femmes utilisent beaucoup?
Oui, de plus en plus. Hein. Et c'est vraiment, maintenant ça commence à être plus connu. Et puis on a des appels aussi, on demande toujours à la femme comment elle a su notre numéro. Et puis on s'aperçoit que c'est les services sociaux, les hôpitaux, les services médicaux sont de plus en plus au courant de ce numéro. Donc elle donne cette information aux femmes.
Est-ce que toutes les femmes viennent dans votre foyer ou est-ce qu'il y a d'autres moyens d'aider les femmes que la solution de quitter leur foyer, leur maison et de venir chercher refuge dans votre foyer? Est-ce qu'il y a d'autres solutions possibles?
Je crois qu'il y a différentes choses. C'est-à-dire que les femmes qui viennent dans notre foyer, c'est souvent des femmes qui n'ont pas la possibilité d'être hébergées, soit dans la famille, soit par des amis. Suivant la situation, quand on a un, deux, voire trois enfants, c'est vrai qu'on ne peut pas forcément imposer sa présence à un autre couple qui a peut-être lui aussi des enfants, à rester dormir dans le salon quand on est trois, quatre personnes. C'est ce qui fait qu'aussi notre foyer est utilisé, je crois.
Mais les femmes ne restent en général combien de temps à peu près dans votre foyer? J'imagine que ce n'est pas une solution définitive pour elles, donc elles ne sont que de passage au foyer.
Exactement, ce n'est pas une solution définitive pour elles, le passage chez nous, mais c'est clair que c'est un espace pour leur donner du recul par rapport aux problèmes qu'elles vivent, la possibilité d'en discuter avec d'autres femmes qui vivent la même situation, les conseils qu'on peut leur donner, disons la mise en question de la problématique en général. Mais surtout, malheureusement, elles doivent rester plus longtemps à cause de la pénurie de logements à Genève, ça c'est clair.
Ah oui, c'est un autre problème. Tu dis les conseils qu'on peut leur donner ou la discussion qu'on peut avoir. Vous avez, je crois, justement, des groupes de discussion que vous proposez aux femmes, c'est-à-dire qu'elles soient au foyer ou bien qu'elles aient trouvé une autre solution d'hébergement. elles peuvent participer à des groupes de discussion ou à des entretiens individuels, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la maison, il y a un groupe régulier toutes les semaines et le désir, c'est justement d'élargir cette possibilité aussi aux femmes à l'extérieur. Donc, on a déjà fait une demande. Bon, les femmes n'ont pas encore répondu, mais c'était notre souhait justement de toucher un peu tout le monde, même celles qui ne sont pas nécessairement hébergées chez nous, hein, pour participer à ces groupes.
Parce que j'imagine que ça doit être aussi important de pouvoir discuter entre femmes qui ont vécu des situations semblables et différentes à la fois, mais qui peuvent les renforcer dans le sens qu'elles savent qu'elles ne sont pas toutes seules à vivre une certaine situation et que c'est important pour elles d'échanger.
C'est essentiel, effectivement.
C'est clair que dans la violence conjugale aussi, il y a non seulement les coups, mais il y a toute la violence qui est faite par les mots, par l'abaissement qu'on peut donner à une personne. Et après, dans ces groupes, il s'agit aussi de se réaffermir, de retrouver confiance en soi. Quand on a été pendant des années située plus bas que terre, la dernière, celle qui fait le plus mal, c'est aussi dans ces groupes-là qu'on essaie de valoriser les femmes dans ce qu'elles possèdent, elles, de retrouver leurs énergies positives, hein, si j'ose dire, pour pouvoir avoir la force de redémarrer différemment, de pouvoir laisser cette violence de côté.
Donc en fait, à Solidarité Femmes et au foyer de Solidarité Femmes, il y a bien sûr un accueil d'urgence, mais il y a aussi tout un travail de suivi pour aider ces femmes à recommencer une autre existence, qui soit celle qu'elles ont choisie et dans de bonnes conditions. Vous parliez tout à l'heure de votre fonctionnement autogéré. J'imagine que dans le cadre de cette autogestion, à côté de ce travail d'urgence que vous entreprenez, il y a tout un travail de réflexion qui fait partie de votre travail aussi, même si ça doit être fait à côté de tout cet énorme travail d'action d'urgence.
Je crois que c'est important de voir que justement notre premier travail, c'est effectivement de répondre à l'urgence quand les femmes sont au téléphone ou qu'elles demandent un hébergement. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Il faut aller jusqu'au bout dans les causes de la violence conjugale. Qu'est-ce qui amène ça? Ça, c'est un travail qu'on appellerait plus ou moins politique. C'est-à-dire c'est notre travail de représentation à l'extérieur, de pouvoir amener une réflexion. Qu'est-ce qu'on peut faire de neuf? Amener un débat dans la direction de la prévention. Enfin, tout ce travail extérieur qui est aussi très, très important et qui occupe aussi beaucoup de notre temps.
Et qui doit être aussi une réflexion à l'intérieur des femmes qui animent, qui font partie de Solidarité
Voilà,
Femmes.
Voilà, chacune, disons que dans notre mandat à Solidarité Femmes, si j'ose employer ce mot, on a donc le travail à l'intérieur du foyer et un autre travail de réflexion.
Parce que vous le disiez tout à l'heure, au départ, c'était des femmes militantes, féministes, et puis petit à petit, vous êtes devenues toutes des professionnelles. Ça veut dire que, votre groupe, il est constitué comment? Vous vous cooptez? Comment vous choisissez les femmes qui viennent vous rejoindre? Il y a des critères pour être acceptées ou intégrées à l'équipe de travail de Solidarité Femmes?
Bon, il y a beaucoup, il faut dire que, tout d'abord, quand on demande à une femme, c'est qu'elle soit elle est sensible aux problématiques concernant les femmes, ça c'est essentiel. Mais à petit, c'est vrai que les femmes qui travaillaient bénévolement avant au foyer, et elles ont fait une formation, elles ont suivi elles-mêmes des formations à l'école sociale, ou autrement des anciens stagiaires qui ont... par la suite postuler comme travailleuse à l'intérieur de l'association.
Guylaine, je crois que c'est ton expérience justement.
C'est le piège là.
plus c'est concret, mieux c'est quand même.
Effectivement, j'ai fait mon stage l'année passée à Solidarité Femmes pendant 6 mois et j'effectue maintenant un remplacement depuis 4 mois.
Voilà, alors je crois que si jamais nos auditrices auraient envie de poser des questions plus précises, qu'elles sachent qu'elles peuvent nous appeler en direct pendant notre antenne, on leur rappelle notre numéro de téléphone, c'est le 50 40 51 41, 023 si vous appelez depuis Genève, 0033 si vous appelez depuis le canton de Vaud, Yverdon. Et n'hésitez pas à le faire tout au long de notre émission. Les femmes de Solidarité sont bien sûr d'accord de répondre à vos questions. Et si vous avez un témoignage à nous transmettre en cours d'émission, n'hésitez pas aussi à profiter de notre téléphone de Remue Ménage sur Radio Zone 93.8.
Michel, toi, tu es depuis un certain moment chez nous à Solidarité Femmes. On t'a invité, tu as accepté volontiers de venir témoigner à la radio. Est-ce que tu peux nous dire, donc, depuis combien de temps tu es à Solidarité?
Mais je suis à Solidarité depuis le 31 mai 1989. Ça fait bientôt 7 mois. Et puis...
On t'est mariée depuis combien de temps?
3 ans et demi.
Mmh. Est-ce que tu as des enfants?
Oui, j'ai un petit garçon.
Mmh. Et tu es de quelle origine?
Origine mauricienne, de l'île Maurice.
Oui. Et puis ton mari?
Il est suisse. Puis je suis mariée.
Mmh. Est-ce que tu peux, juste pour donner un témoignage de ton expérience, nous raconter en gros, donc, à partir de quand tu as commencé à vivre la violence à l'intérieur de ton couple?
Ouais, au début de mon mariage, ça allait mieux. Et puis après 5-6 mois, ça a commencé des mots, des trucs comme ça. Puis après des coups, il m'a commencé à me taper. Puis moi, je n'osais même pas parler, je ne disais à personne. J'arrive même pas à dire à mes parents, à ma famille, ce qui se passe entre moi et mon mari. Et puis quand je suis tombée enceinte, j'ai dit peut-être ça va changer, je vais avoir un enfant et puis il va changer. Puis pendant ma grossesse aussi, il m'a tapé. Et puis au début de cette année, j'ai commencé à parler. J'ai dit j'en peux plus parce que j'ai vu qu'il commence de plus en plus à être avec des mots. Ça m'a fait beaucoup de mal. Il me dit tous les mots que je ne pensais pas, quoi. Et puis j'ai commencé à parler avec des gens. J'ai parlé avec une copine. Et puis ma copine, elle voulait même pas croire que moi j'ai passé comme ça. Et puis elle m'a dit, écoute, tu dois faire quelque chose. Je connais un numéro de téléphone, c'est le 97 10 10, c'est Solidarité Femmes. Et puis tu peux téléphoner pour essayer de demander des renseignements. J'ai téléphoné et j'ai parlé avec une assistante. Et puis elle était très gentille, elle m'a dit que je peux partir de la maison avec mon enfant. Parce que moi, je ne savais pas que je peux partir de la maison avec mon enfant. Je ne savais même pas ça. Quand elle m'a dit que je peux partir, je n'ai rien à craindre. Et puis, au début, j'avais un peu peur de partir. J'ai dit, je ne sais même pas. Si, je ne savais même pas où aller, quoi. J'ai dit, je ne connais même pas la solidarité, femme.
Mm-hmm. Est-ce que tu avais un travail à ce moment-là? Est-ce que t'étais...
Non, je ne travaillais pas. Je restais à la maison. Et puis... J'ai décidé de partir, puis je suis rentrée chez Solidarité Femmes. Puis j'ai resté un mois. J'ai décidé vraiment à divorcer. Puis quand mon mari il m'a dit, écoute, je vais essayer de changer, je vais tout faire pour... Tu reviens à la maison. Puis moi j'ai dit, ouais, je vais essayer, peut-être je fais une erreur, je vais essayer de rentrer à la maison.
Tu te sentais coupable de ce que tu avais... du fait que tu étais partie ou bien...
Non, mais je disais peut-être que j'ai fait une erreur, je ne sais pas moi.
Une erreur au niveau de votre relation?
Oui, la famille. Pensé, oui. Et puis j'ai rentré à la maison. Ça a duré qu'un mois. Et puis ça a recommencé la même chose. Il m'a même dit, t'es rentrée, j'aurais même pas dit t'accepter à la maison, puisque t'étais partie. Et puis il m'a recommencé à me taper, mais humilié avec des gros... Ça, je ne sais pas comment dire, mais... Et puis... J'ai décidé de partir. Pour la deuxième fois, j'ai pris mes affaires. Et puis, pendant qu'il était au travail, j'ai pris mes affaires, j'ai pris mon fils. Et puis, j'ai dit, cette fois, c'est fini, je vais partir. Puis, je suis partie. J'ai rentré encore au Solidarité Femmes.
Michel, est-ce que je peux vous demander, votre enfant dans cette situation, il était menacé aussi? Est-ce que vous vous sentiez coupable parce que votre enfant était témoin, justement, des rapports violents que vous aviez avec votre mari?
La seule chose que je suis partie de la maison, c'est à cause de mon fils aussi. Je ne voulais pas qu'il voit tout ça et puis il grandit dans la violence.
Mais est-ce que vous aviez l'impression que votre mari vous en voulait pour quelque chose? Qu'est-ce qu'il faisait qu'il était comme ça violent avec vous? Il était fâché, il était... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous reprochait?
Mais il y avait la question, il y avait sa mère aussi qui s'est mêlée de mon ménage. Et puis moi, quand je disais, mais écoute, je parle à sa mère, j'ai dit, écoute, vous n'avez rien fait dans mon ménage, tout ça. Puis elle se prend ça mal, elle dit à son fils, quand son fils rentre à la maison, elle dit oui, ta femme elle m'a dit ça, ta femme elle m'a dit ceci. Puis lui, sans juger, il vient à la maison, il commence à m'engueuler. Puis moi, quand j'essaye de l'expliquer, de dire écoute, je n'ai rien dit, là il commence à s'énerver, je ne peux même pas dire un mot qu'il commence à s'énerver. Puis moi, j'ai tellement peur que je reste comme ça, je ne dis rien quoi. Je me protège. Si je parle, je sais, il va me casser le visage, il va me faire, je ne sais pas quoi, mais je préfère me taire.
Tu ne pouvais pas t'exprimer, disons. J'ai l'impression que tu n'avais pas la possibilité de dire tes sentiments à toi, ce que tu pouvais exactement.
J'arrivais même jamais à m'expliquer, à dire pourquoi c'est passé comme ça, mais si je commence à parler, il commence il crie plus fort que moi, mais je dois me taire.
Vous ne travailliez pas parce que vous aviez envie de vous occuper de votre petit-fils ou bien vous auriez aimé aussi pouvoir sortir? Est-ce que peut-être le fait d'avoir une occupation à l'extérieur serait changer les choses ou aggraver les choses? Vous avez l'impression?
Moi, au début, j'ai dit, ouais, je vais m'occuper de mon fils un petit peu. Après, j'ai dit, bon, je vais chercher quelque chose, un travail comme ça. Puis quand je lui ai dit que je vais travailler, il m'a dit non, je ne veux pas que tu travailles. Puis ça s'est commencé comme ça aussi, il ne veut même pas que je travaille. Il ne veut même pas que je sorte, si je vais sortir, aller voir une copine, là aussi c'est...
Alors que ce que tu nous as raconté tout à l'heure, c'était qu'il y avait un salaire très 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 bas pour maintenir une famille avec un enfant. Oui.
Donc en fait, ça aurait été utile à tout le monde que vous puissiez travailler, ça aurait arrangé l'affaire de la famille, quoi. Oui. Mais il craignait vos contacts avec l'acteur. Excuse-moi, Nilay.
Mais quelles étaient les raisons qu'il invoquait pour que tu n'ailles pas travailler?
Soi-disant pour payer les impôts, pour les loyers vont s'augmenter, et puis c'est comme ça.
Finalement, d'après ce que tu racontes, tu viens quand même d'un pays étranger. D'après ce que je sais, ta famille n'est pas à Genève. Ouais. Finalement, tu étais assez isolée dans cet appartement.
J'étais toute seule et puis j'ai des amis, mais c'est pas la même chose que d'avoir ses parents ici. Puis surtout, il y a ses parents qui étaient contre moi et puis je pouvais rien dire. Je suis humiliée. Pour moi, quand j'étais avec lui, je sentais comme si je suis un esclave. Je suis son esclave, il peut me faire tout ce qu'il veut. Moi, je dois pas dire non ou bien... Je dois jamais dire non, je dois tout le temps dire oui, oui, oui.
Et puis depuis que vous êtes à Solidarité, vous vous sentez plus forte, vous avez l'impression que vous allez pouvoir recommencer une nouvelle histoire et qu'on peut mettre une croix sur ce qui s'est passé avant et recommencer autre chose.
Oui. Mais pour moi, je vois que j'ai vraiment changé depuis que je suis au Solidarité Femmes parce que j'ai beaucoup appris et puis... Maintenant, je suis prête à recommencer une nouvelle vie.
Et quand vous dites que vous avez beaucoup appris, par exemple quoi?
J'ai appris beaucoup de choses. Quand il faut dire non, je dois dire non. Et puis, avec les assistants, tout, je m'entends bien, je discute très. Elles sont vraiment là pour nous, quoi. Si on a un problème, on discute, et puis... Elle nous écoute et puis on est très, très bien.
Votre envie, c'est de vous retrouver un appartement, un travail et de pouvoir vivre avec votre fils?
Oui, mais j'ai déjà trouvé du travail, puis je cherche un appartement. Mais je mets toute mon énergie, je sais que je vais trouver un appartement et puis je vais réussir.
Je remercie Michel d'avoir bien voulu témoigner à notre micro. C'est aujourd'hui encore difficile d'obtenir le témoignage de femmes victimes de violences et je crois que c'est très important parce que de savoir quelle est la réalité vécue par ces femmes mais va certainement encourager d'autres femmes à parler de ce qu'elles vivent. Et comme disait Michel, c'est important d'échanger, de pouvoir savoir qu'on n'est pas les seuls, comme on le disait aussi tout au début, et qu'il y a, comme disait Guylaine en coulisses, mais dont nous allons parler maintenant, une solution effectivement à ce problème-là. Alors Guylaine, est-ce qu'on peut dire que la femme battue, c'est toujours la même, entre guillemets, enfin je ne sais pas très bien comment exprimer ça, mais est-ce que ça arrive toujours à un certain type de femme d'être battue? Est-ce qu'il y a un profil type de la femme qui est victime de violences conjugales?
Non, justement pas. Il y a le côté mystique qui dit un petit peu que c'est surtout dans les couche sociale basse qu'on va retrouver la femme battue. Mais par notre expérience, je crois qu'on peut vraiment dire que c'est pas vrai. On a à peu près un 50-50% de femmes qui s'adressent à nous. Ce sont des femmes de tout âge, on peut pas faire une moyenne d'âge non plus, qui s'adressent par le téléphone, de tous les milieux sociaux et de toutes les origines. Ce que j'aimerais peut-être dire aussi, parce qu'on a de plus en plus souvent ce cas au foyer, c'est qu'on a souvent, comme Michel, des femmes qui sont étrangères, mais dont le mari est suisse. Alors au niveau des appels téléphoniques, je crois qu'on peut vraiment dire qu'on a 50-50%, milieu plus élevé, milieu plus bas. Peut-être que pour les hébergements, effectivement, on constate qu'on a peut-être un milieu plus bas, parce que c'est aussi un milieu où la femme a peut-être moins de ressources financières, donc pour pouvoir partir, quitter ce mari, peut-être moins de possibilités de se faire héberger, donc plus facilement recours à ce type d'institution de foyer.
Elle n'a pas de famille non plus sur Genève, souvent.
Voilà, quand il s'agit de femmes étrangères chez nous, justement, elles n'ont pas de famille, donc effectivement il n'y a pas d'autre solution que celle que nous on propose.
Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il n'y a pas un profil type de l'homme violent, du mari violent qui agresse sa femme? On a tout souvent, par exemple, un mythe qui court, c'est que l'homme violent est forcément alcoolique, par exemple. Est-ce que c'est une chose réelle?
Non, justement, c'est de nouveau pas une chose réelle. Je crois qu'il y a des hommes alcooliques qui battent leurs femmes, mais de loin, c'est pas une majorité. De loin, on peut pas dire que tous les alcooliques battent leurs femmes. C'est vrai qu'on a des femmes qui nous racontent que leurs maris boivent et que dans ces moments-là, ils les battent plus particulièrement. Je dirais, comment on se lie la boisson avec la violence, on ne le sait pas encore exactement. Quelques études statistiques ont été faites dans d'autres pays qu'en Suisse, parce que chez nous, on en fait très peu de statistiques. Et ces statistiques se contredisent. Donc on n'arrive pas du tout à avoir un point fixe qui puisse nous dire vraiment ce que veut dire l'alcoolisme.
Mais il y a quand même un point de vue commun entre soit les femmes qui sont victimes de violences conjugales, soit les hommes qui agressent leurs femmes de cette façon-là.
Et c'est-à-dire que, justement, pour répondre à la question, pourquoi un homme bat sa femme, je dirais, c'est tous des alibis. Disons, l'alcool rentre dans un alibi pour ce genre de questions.
Oui, parce que quand je dis qu'il doit y avoir des points communs, par exemple, je ne sais pas, cette façon de se sentir tellement humiliée, blessée, ou bien il doit y avoir quelque part une façon de la femme de ressentir ça profondément à un moment donné. Est-ce que c'est lié par exemple à un passé familial où, comme gamine, elle aurait été déjà une enfant méprisée et avec de la peine à s'en sortir? On peut faire des liens aussi schématiques que ça?
Des liens, on peut toujours en faire, mais je crois que là, c'est vraiment arrivé de nouveau à une généralité qui n'est pas possible pour l'affirmer comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, chacun a son parcours et il y a des parcours qui peuvent ressembler à celui que tu viens de décrire, mais c'est de loin pas une généralité à faire. Mais c'est vrai qu'on peut plus facilement retrouver quand même des personnes qui déjà dans la famille ont été sous-estimées, qui n'ont pas été entendues, pas écoutées, mais de loin pas une généralité.
Est-ce qu'on peut dire des hommes que par exemple, s'ils agressent leur femme, c'est qu'aussi ils ne sont pas sûrs d'eux et qu'ils ont besoin de se reporter sur quelqu'un qui est plus faible?
Oui, ça revient de nouveau à l'alibi. Je veux dire, le problème, les frustrations, le stress, le refus de rapport sexuel avec la propre femme, je veux dire, tout ça, c'est un genre, à la limite, c'est des alibis pour arriver à la violence, pour se défouler sur sa propre femme.
Est-ce que nous, dans la société, on n'a pas besoin aussi peut-être de cette excuse pour excuser l'homme qui bat, hein, puisqu'on a quand même encore un regard qui est très fermé là-dessus, où on n'aborde pas ce qui touche le privé? Ça nous arrange peut-être aussi de croire ça. Mmh.
Non, oui, c'est, et puis c'est un état de fait qui est transmis par la société même. Mm-hmm. Je veux dire, c'est clair que l'éducation, la famille, l'école, donc tout engendre ce genre de justification entre guillemets par rapport à ça.
Oui, parce que on a l'impression que dans la majorité des mentalités, on considère que, bon, d'abord, ce qui se passe dans la famille est une chose, dans le couple, comme tu disais, c'est une chose privée, on ne doit pas s'en mêler. En plus, ils n'ont qu'à régler leurs problèmes tout seuls. Il y a cette idée du rôle de l'homme, un parti à l'homme et un parti à la femme. La femme est censée obéir, être soumise, même si aujourd'hui les choses évoluent, heureusement. Et on l'évoque, heureusement, assez souvent sur Homme et Ménage et Onde Femme, mais on sait que c'est encore une image qui court beaucoup. Donc c'est qui contribue à ce qu'on cherche soit à minimiser l'importance de la violence conjugale ou carrément à la dissimuler, à se la cacher même à chacun, non ?
Je crois aussi qu'on la considère comme un problème individuel, quand en fait il ne s'agit pas d'un problème individuel, mais un problème politique, social et culturel. Je crois qu'on est vraiment tous concernés. Et que le fait qu'il y ait aussi ce silence, qu'on puisse laisser, donc, quand ça se passe dans un appartement, finalement, ça ne se passe pas chez nous réellement, on n'est pas totalement concerné. Donc, OK, on laisse ça à cette individualité. Quand en fait, tous, on est capable aussi de dénoncer ça, de peut-être pouvoir aider la personne en lui donnant un numéro de téléphone ou une écoute, en buvant un café. Mais pour l'instant, on laisse confiner ça dans un problème individuel vraiment privé. Et ça, c'est à tous les niveaux qu'on le retrouve, quoi. Les femmes, la violence faite contre les femmes n'est pas encore réellement reconnue. Elle est souvent banalisée, comme tu le disais. Et ça, que ce soit au niveau de la police, que ce soit au niveau des juges, que ce soit au niveau des assistants sociaux, des médecins, des médias, l'opinion publique, etc. Et j'en passe, quoi.
Est-ce que, par exemple, Michel, vous aviez l'impression que certains de vos voisins pouvaient savoir ce qui se passait chez vous et se sont bouchés les oreilles, par exemple ?
Parce que là où j'habitais, j'ai resté pendant une année. Et puis, il y avait un voisin qui était à côté. Lui, il entendait tout. Et puis, des fois, il m'a dit, il voulait téléphoner, mais